Bonjour, bienvenue à la communauté évangélique de l'Agneau. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour pouvoir prendre un temps pour partager sur la parole de Dieu. On est en train de faire une étude justement sur le royaume de Dieu, le royaume qui appartient à Dieu. On a vu là-dedans plusieurs points dans les versets de la parole pour pouvoir approfondir ce sujet-là. Aujourd'hui, on va voir encore un aspect que les chrétiens doivent découvrir. Oui, la majorité l'ont découvert, mais c'est dans le but qu'on comprenne que quand tu as donné ta vie au Seigneur, il y a comme une nouvelle vie qui commence. C'est ce que la Bible nous dit. Puis là-dedans, au moment où on donne notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit rentre dans notre vie puis dépose des choses en nous. Il commence une œuvre de changement, une œuvre de transformation, puis le Seigneur veut nous amener à ce qu'on devienne comme Jésus. Puis quand on reçoit le bagage de qu'est-ce qu'on a reçu, on a vu déjà des positions puissantes, des choses que Dieu a faites, qui nous a délivrés de la puissance du péché, il nous a pardonné, nous a sauvés, nous a donné la vie éternelle, nous a équipés du Saint-Esprit, tout ça. C'était dans le but de commencer une nouvelle vie. Les membres nouveau-nés du royaume de Dieu, ils doivent apprendre à marcher après cela, dans les nouvelles caractéristiques qui viennent de Dieu. Parce que au moment de notre conversion, Dieu a déposé des choses, puis Dieu veut que ça se mette en place dans notre vie, dans notre croissance spirituelle. On va commencer à découvrir ces choses-là, mais un des premiers points que Dieu s'attend pour ses enfants, c'est que notre foi soit démontrée par l'obéissance. Dans 2 Corinthiens 5, 17, pour comprendre bien ce que je veux en venir, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'on veut parler. Du toutes choses qui sont devenues nouvelles. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites lors de notre conversion par le Seigneur. Mais après ça, dans notre vie, il y a un cheminement de croissance, de développement, de transformation, des délivrances, des choses qui s'ajoutent dans notre vie pour bâtir notre personnalité chrétienne, enfant de Dieu, pour aboutir à devenir comme Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. De quoi est-ce que Dieu veut nous parler là-dedans? Mais pour y arriver, c'est ce qu'on veut développer aujourd'hui, qu'il y a des passages des Saintes Écritures qui nous dit que notre foi est démontrée par notre obéissance. Puis ça fait partie du point de départ pour tous les chrétiens. Quand on démarre notre nouvelle vie avec Jésus, faut s'attendre à ce qu'il y a quelque chose qui est démontré, qui va sortir de nous, qui va être comme un fruit de notre développement de chrétien par la communion qu'on a avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans cette nouvelle vie, dans le royaume de Dieu, on est deux pieds sur la terre, mais on est quand même participant du royaume de Dieu et de ses bienfaits. Ça va produire quelque chose en nous qui va nous amener à démontrer qu'on est chrétien. La marche d'un chrétien rempli de l'Esprit le conduira dans l'obéissance à l'exemple de Jésus. Une des premières caractéristiques qu'on voit là, dans quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, qui a vraiment, il s'est passé de quoi? Il s'est repenti, il a cru en Jésus, il s'engage à suivre Jésus, mais ça nous dit que tout de suite, là, tu vois, là, il veut suivre le Seigneur, il veut obéir au Seigneur, il veut apprendre les choses du Seigneur. Ça démontre, c'est le commencement qui démontre qu'il va se passer des changements dans sa vie. Pourquoi il va se passer des changements dans sa vie? Parce que Dieu va intervenir. C'est Dieu qui a commencé à intervenir par ce qui a été déposé. Le but vraiment, c'est d'arriver à devenir comme Jésus. On le sait qu'avant, on marchait dans nos péchés. Maintenant qu'on s'est repenti et qu'on dit qu'on veut plus marcher dans le péché, on veut changer de vie. Là, le Saint-Esprit rentre dans notre vie pour nous faire entrer dans une nouvelle vie. Toute chose devient nouveau. Puis pour devenir comme Jésus. Puis comment est-ce que Jésus était, lui? Mais dans Philippiens 2:8, ça nous dit qu'il est paru comme un simple homme. C'est ce qu'on voit. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié lui-même, puis se rendant obéissant. On voit là-dedans que Jésus, premièrement, il n'y a pas d'homme qui marchait plus rempli du Saint-Esprit que lui. Lui, il avait la plénitude de Dieu en lui. Il était Dieu. Puis même s'il marchait dans la plénitude de Dieu, le Saint-Esprit est en lui pour l'équiper, le fortifier, l'enseigner, le diriger, lui donner des dons spirituels, tout ça, là, tout était là. Puis il a fallu quand même qu'il se rende obéissant. On voit là-dedans quelque chose, là, que la volonté de l'être, du moi, du je suis, de ce qu'on est, notre personnalité, notre personne, notre âme, notre moi, doit marcher à l'unisson avec ce que le Saint-Esprit veut nous emmener. Le Saint-Esprit voulait que Jésus marche dans la sainteté. Parce que quand il était présenté à Marie, ça dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Bon, mais le Saint-Enfant, c'était le but qui marche dans la sainteté. Puis, comment c'est arrivé qu'il a pu marcher dans la sainteté toute sa vie sans commettre aucun péché? Mais c'est justement le Saint-Esprit en lui pour lui donner la capacité, mais il y avait aussi la volonté de vouloir marcher dans ce que le Saint-Esprit a pour le conduire. C'est pour ça que dans ce verset-là, ça dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il n'y a pas de moment de répit. Jésus n'a pas eu de moment de répit. Toute sa vie, il a appris à se soumettre à la pensée de l'Esprit, puis a dit, moi, là, faut que je vive une vie dans sainteté. C'est ce qu'il devait se dire. Puis il n'y a pas question qu'on se livre, on se laisse aller dans des péchés autour. Je dois marcher dans l'exemple que je suis supposé d'apporter. Dès nos premiers pas dans le Seigneur, c'est ce que la Bible a dit. Nous sommes incités par le Seigneur à rechercher premièrement le royaume et à vivre selon la justice de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 6, 33. Jésus qui nous a dit ça, il a dit « Cherchez ». Il nous parle à nous qui cherchons le Seigneur. Mais il dit « Cherchez premièrement ». Ça veut dire qu'il y a de quoi en premier qu'en tant que chrétien qu'on doit rechercher. Oui, le Saint-Esprit va nous conduire là-dedans, mais moi, Daniel Poulain, comme chacun de vous qui écoutez aujourd'hui, on doit rechercher en premier le royaume. On sait que Dieu, le royaume de Dieu s'est approché de nous, que Dieu a envoyé des gens représentant son royaume, puis ils nous ont appelés à rentrer dans ce royaume-là, ils nous ont expliqué le plan du salut, on a adhéré, on a reçu Saint-Esprit, on était pardonné, on est rentré dans le royaume, mais Jésus est en train de nous dire quelque chose un peu plus que juste entrer. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Ça, ça veut dire que quand tu es chrétien, tu portes ta nouvelle vie avec le Seigneur, tu es rentré dans le royaume, mais là, il dit « cherche le royaume ». Cherche, il voulait dire, chercher à vivre selon quelqu'un qui fait partie de ce royaume-là, puis chercher à vivre aussi selon la justice de Dieu. On parle pas juste de recevoir le pardon, on parle d'une marche dans la justice. Qu'on doit avoir la volonté de vouloir marcher à l'unisson, comme je disais tantôt, avec le Saint-Esprit. Puis c'est là-dedans que le Saint-Esprit veut nous amener. Dans le royaume de Dieu, tous les habitants, ceux qui ont compris le salut, tous les habitants du royaume veulent chercher premièrement dans leur vie le royaume, puis de marcher selon la justice de Dieu. Si on perd de vue cette optique-là, on va être égaré. Parce qu'on cherche plus le royaume, ça veut dire qu'on est deux pieds encore dans le monde, puis on cherche les choses du monde. Puis ça veut dire aussi, on cherche plus la justice de Dieu, ça veut dire qu'on peut se permettre de vivre dans des petites affaires que Dieu veut pas. Mais des fois, c'est des grosses affaires. Puis ça fait pas partie du plan de Dieu. Dieu, notre appel, c'est de marcher, puis comme Jésus l'enseigne, dans une recherche, une poursuite de trouver le royaume, puis de se maintenir dans ce royaume-là en marchant dans la justice de Dieu. Une des attentes du Seigneur, la Bible nous dit, est que les gens soient prêts à avancer. Quand tu es chrétien, il faut que tu sois prêt à avancer. Il faut que tu prennes des décisions en réponse à l'appel de Dieu, sans retenue, afin d'obéir au Seigneur. Il n'y a pas de place pour « Ah, tant de minutes, Seigneur, il faut que j'aille enterrer ma parenté. » Jésus dit « Laisse les morts en souvenir des morts. » toi, suis-moi. Suivre Jésus, ça fait partie de la priorité, qu'on doit être à la recherche du royaume, sa justice, marcher avec lui, prendre des décisions, rejeter des choses, rechercher des choses qui vont nous faire grandir dans la foi, qui vont nous équiper, qu'on va être une manière, qu'on porte du fruit pour Dieu. Notre vie chrétienne doit paraître par notre obéissance au Seigneur. Dans Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 24, ça nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Voyez-vous, dans ce passage-là, Jésus est quand même, strict puis catégorique. Il n'y a pas deux chemins à suivre. Il n'y a pas du relâchement sous-entendu dans ces... Tu veux suivre Jésus, faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même, à te charger de ta croix, à suivre Jésus. Parce que si tu veux conserver ta vie, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Il dit pas, si tu crois en Jésus, tu crois pas en Jésus. On parle de se donner au Seigneur. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu renonces à toi-même, ça veut dire que tu dis, moi, là, c'est plus mes idées, mes buts, mes ambitions, ma volonté, mes passions, mes péchés que je veux, c'est chercher le royaume, chercher sa justice, vivre selon la justice de Dieu. Fait que là, quand tu es prêt à renoncer à toi-même, tu vas prendre ta croix, tu vas suivre Jésus, puis là, tu vas perdre ta vie. C'est ça le prix à payer pour être chrétien. Puis celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus, mais il va la trouver. Parce qu'on trouve vraiment notre vie au moment où on commence à vivre pour le Seigneur. Quand on commence à mettre le Seigneur au devant de nous. Quand on commence à faire passer le Seigneur en premier. C'est là, en fin de compte, qu'on commence vraiment à vivre. Parce qu'avant, on vivait pas. Dans la rébellion, on était mort. On était séparés d'avec Dieu. Dans le retour à Dieu avec repentance, puis prêt à avancer, prêt à tout abandonner, quand le Seigneur nous dit quoi? On avance avec le Seigneur, puis là on marche dans la vie du Seigneur. Amen. Les chrétiens, la Bible nous dit, doivent être fermes, parce qu'il va y avoir plein de tentations autour de nous qui vont venir, des combats avec le diable, des combats avec le monde, des combats contre notre chair, puis on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ce que ça nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, ça nous dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec les paroles qui lui servent de sceau. » Le fondement de Dieu sur lequel il faut se baser, là, c'est ses paroles. Ça reste debout parce que Dieu a prouvé que sa parole était vraie. Il l'a prouvé en envoyant son Fils conformément à la parole, puis les prophéties. Puis Jésus est venu donnant les paroles, on les a toutes par écrit, ce qu'on devait savoir, on l'a par écrit. Puis là-dedans, on a le chemin pour marcher d'une manière qui est conforme à la volonté de Dieu. Fait que c'est un solide fondement, c'est des paroles qui servent de sceau. Puis en plus de ça, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La Bible a dit, quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voyez-vous, il faut être prêt à prendre des décisions pour suivre Jésus. Il faut être ferme, parce que les tentations sont là, les épreuves vont venir, le diable va venir pour essayer de nous tenter, le monde avec, puis notre chair est attirée par le péché. Puis il faut faire bien attention, parce que le monde puis ces pièges-là sont dangereux. Peuvent nous ramener carrément à nous garder liés, puis on peut se perdre. Puis ça dit bien dans la parole de Dieu que quand tu t'es engagé à suivre le Seigneur, mais c'est quiconque prononce le nom du Seigneur, mais qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce qu'autant que le péché nous amena à la mort avant d'être chrétien, mais le péché amène encore les chrétiens dans la mort une fois que tu as été sauvé. C'est comme si tu retournes à ce que tu avais vomi. Puis il faut vraiment comprendre que ça fait partie du combat du chrétien à dire non au péché, puis à dire oui au Seigneur. Être prêt à renoncer à soi. Puis c'est sûr que ça coûte de quoi, puis c'est sûr que ça prend un effort. Comme je disais tantôt, Jésus, lui, il s'est rendu lui-même obéissant, puis nous-mêmes, on doit apprendre l'obéissance. C'est pas automatique. Nous, par défaut, c'est plus automatique pour nous d'être insoumis, rebelles, se laisser aller, faire ce qu'on aime, vivre dans le péché. C'est plus facile pour nous, mais la nouvelle nature qu'on a reçue veut nous attirer à marcher dans sainteté, puis devenir comme Jésus. Mais il faut apprendre à soumettre notre volonté, à plier le genou devant le Seigneur, confesser nos fautes, abandonner ce que Dieu aime pas. Amen. Nous devons apprendre la persévérance à obéir à Dieu. Ça, c'est un des fruits qui va découler de la nouvelle naissance. Persévérer à obéir à Dieu, car quiconque s'engage puis retourne en arrière, ben il n'entrera pas dans le royaume. C'est ce que ça nous dit Jésus dans Luc chapitre 9, le verset 62. Jésus a dit, « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vraiment, Jésus, il est sévère, puis il est catégorique. Tu t'engages à me suivre? Arrête de convoiter ce que tu avais avant. Arrête même d'y penser. Si t'es vraiment repenti de cela, tu l'as abandonné. T'as fui ces choses-là. Alors, retourne pas là-dedans, parce que t'es perdu. Tu vas te perdre. Reste fidèle au Seigneur. Marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Sois zélé pour le Seigneur. Il n'y a pas d'autre place à aller qu'à Jésus, puis de confesser son nom, puis de s'éloigner de l'iniquité. Jésus rit pas, le danger il est réel. Puis il y en a, on le voit là dans la Bible, dans la parabole des 10 vierges, il y en a à moitié qui ont rentré, puis il y en a à moitié qui ont resté là. C'est pas tout le monde qui va rentrer, c'est celui-là seul qui fait la volonté du Père. Au fur et à mesure que Dieu donne ses révélations sur notre appel, le chrétien avance par la foi, voulant mettre en pratique la parole de Dieu. C'est clair dans la parole, tout nous pousse à aller de l'avant, à persévérer, à pas lâcher, à garder le cap. Tu vas avoir des révélations plus en plus grandes de comment tu dois marcher, Seigneur te le montre, le chemin. Mais là, il faut que tu avances par la foi, puis tu veux mettre en pratique ce qui est écrit. Dans le verset, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, ça nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu dans ce que recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Voyez-vous, vous l'avez reçu comme, non la parole des hommes, mais comme étant la parole de Dieu. Quand on a reçu la parole, on a cru en Jésus. Puis où est-ce qu'on a entendu cela? C'était écrit dans la parole. On a cru que Jésus était le Messie. On a cru qu'il nous en donnait l'enseignement. Puis on l'a reçu comme étant la parole de Dieu. Si on ne l'a pas encore reçu dans ce sens-là, mais il est grandement temps, je vous encourage à recevoir ce qui est écrit là comme étant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est une puissance que Dieu nous a donnée, sa parole, pour nous faire marcher dans sa volonté, pour qu'on puisse être des lumières dans ce monde, qu'on soit différent, pour devenir comme Jésus. Puis là, il dit, quand tu l'as reçu, tu n'as pas ça comme parole d'un homme. Parole d'un homme, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Parole de Dieu, tu veux la graver dans ton cœur, tu veux t'en rappeler, puis tu demandes au Seigneur, aide-moi Seigneur, je veux mettre ça en pratique. Puis le Seigneur va le faire. Il va t'aider, il va te délivrer, il va te guérir, il va pardonner, il va te changer. Tout ce qui a besoin d'être changé, parce que c'est Dieu, il est vrai. Sa parole est vraie, il n'est pas menteur. Puis il l'a fait à plusieurs reprises dans ma vie, puis il continue à le faire. C'est lui qui me garde, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me révèle, c'est lui qui me montre ce que je dois vous apporter. C'est un message pour tous, parce que je le crois et je le vis, je le veux, puis je le crois aussi que c'est pour vous. Puis ça nous dit dans ce passage-là, verset 13, ça dit, vous l'avez reçu comme la parole qui est la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Voyez-vous, il est là le secret. Est-ce qu'on y croit que la Bible, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu? Si on y croit, on va l'avoir, on va s'attacher à elle, on va y croire, puis on va vouloir rester dans sa parole, puis on veut que sa parole demeure en nous aussi, puis elle va agir en nous qui croyons. Il y a beaucoup de gens, des fois, que ça marche pas. Mais est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils disent, oh, mais ça, c'est Paul qui disait ça, puis ça, c'est dans ce temps-là. Oh, puis ça, c'est pas vraiment les priorités. Oh, ça, c'est pour les autres. Ah oui, pour lui, ça, mais pas pour moi. Mais quand on pense de même, elle agit pas. Faut vraiment se regarder, puis se sonder, puis s'avouer quand on nous montre quelque chose, puis on dit, oui, c'est vrai, je suis pécheur, puis oui, c'est vrai, je veux que le Seigneur me pardonne, oui, c'est vrai, je veux que la mette en pratique, puis le Seigneur va le faire. Elle va agir, elle va te délivrer, elle va te guérir, cette parole-là, elle va transformer ta vie, parce que Dieu est vrai. La Bible nous dit que les habitants du royaume doivent demeurer dans la recherche de vivre selon les révélations reçues d'en haut. C'est basé sur Colossiens chapitre 3, le verset 2. L'apôtre nous parle là-dedans de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais un vrai disciple, un vrai habitant du royaume, lui, il va vouloir demeurer puis rechercher à vivre selon les révélations qu'on reçoit d'en haut. Parce que si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, mais il va t'en donner des révélations. Il va te donner des pensées, des méditations. Quand tu apprends une nouvelle affaire en lisant la Bible ou en écoutant un message, il y a des lumières qui s'allument. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais ça, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Les choses spirituelles sont comprises par l'homme spirituel qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Si on vit selon la chair, on n'apprend rien. On grandit pas, on tourne en rond. Si on se repent, on demande au Seigneur, parce qu'on s'attache aux choses d'en haut, il va nous révéler ses idées, puis on va la vivre, on va les vivre, ses idées. On va s'attacher à ces choses-là, puis on va en goûter du fruit. Ils vont être agissants dans notre vie. On est encouragé par la parole de Dieu à s'affectionner aux choses d'en haut, puis non pas aux choses de la terre. Oui, il y a des choses qu'il faut faire sur la terre, il faut aller travailler, il faut manger, il faut dormir, c'est des choses naturelles. Ça, je dis pas qu'on parle pas de ça, on parle du péché, des choses qui sont pas de Dieu dans ce monde, qu'il faut lâcher, abandonner, parce que ça souille notre esprit, ça souille notre âme, ça rouvre des portes à l'ennemi, puis on vit dans des combats, puis ça fait la guerre à l'âme, à cause que c'est pas de Dieu. Mais en grandissant, avec le Saint-Esprit, il va nous conduire parce qu'on s'attache aux choses en haut, puis on va devenir de plus en plus comme Jésus. Quand on parle du mot affectionner, affectionnez-vous aux choses d'en haut, qui est écrit dans ce verset-là, ça veut dire penser. Penser aux choses d'en haut. Ou concevoir, réfléchir, méditer. Même s'affectionner, c'est au bord de l'affection, avoir de l'amour pour ce qui est des choses d'en haut. Puis à revêtir, même à aspirer, à chercher à comprendre, puis demander au Seigneur qu'il nous les révèle. Puis il va le faire. Parce que Dieu le promit dans sa parole, qui était pour nous donner ses révélations. Parce que sans ses révélations, on peut même pas avancer dans le Seigneur. Sans révélation, on va tourner en rond, on va marcher charnellement. On a besoin vraiment de ces révélations. Puis il va nous les donner parce qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Notre soif, puis notre attachement à sa parole, font de nous des gens qui marchent d'une manière agréable au Seigneur. Si on marche charnellement, on n'est aucunement agréable au Seigneur. Puis quand tu es dans ta vie chrétienne, tu veux apprendre à marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Tu veux attirer sur toi la faveur de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te conduise mais tout ça. Mais pour cela, il faut que tu t'attaches à sa parole. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu y dises au Seigneur que tu l'aimes. Tu veux même, tu lui dis que tu veux qu'elle soit vécue. Démontrer ta foi va être démontrée par tes œuvres, ta manière d'être. Puis ta croissance, elle a un rapport direct avec ces révélations. Plus que Dieu va te donner des révélations, plus tu grandis dans le Seigneur. Plus que tu vas vivre et mettre en pratique, plus qu'il va t'en donner des révélations. Tu vas continuer à grandir dans le Seigneur. Ça marche ensemble. Dans Colossiens 1:10, l'apôtre Paul nous parle « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » C'est ce qu'on voit dans Colossiens au chapitre 1, le verset 10. « À marcher d'une manière digne du Seigneur. » C'est ça qui est le but. De marcher d'une manière digne, c'est de marcher d'une manière digne du royaume. C'est pour ça que Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » C'est de même que tu vas vivre d'une manière digne du Seigneur. Tu vas lui être entièrement agréable quand tu marches. Dieu va nous regarder, puis il va dire « Ça, je suis fier de cet enfant-là, parce qu'il marche d'une manière digne du Seigneur. » C'est sûr que celle qui est faible, celle qui a de la misère, Dieu veut t'aider, il veut t'en sortir de cela. Il veut pas que tu restes dans cet état-là. C'est pour ça, si tu vis de quoi de difficile, mande-y pardon, mande-y de l'aide, puis là, ça, tu vas commencer à être agréable à Dieu. Mande-y que tu veux appliquer la parole comme que c'est écrit, puis il va le faire en toi. Tu vas recevoir tes délivrances. Pour arriver à être entièrement agréable à Dieu, puis en portant du fruit pour Dieu, parce que tu développes ta relation avec Dieu. Puis tu vas vivre toutes sortes de bonheur, puis ça nous dit dans ce passage-là, tu vas croître par la connaissance de Dieu. C'est là qu'on rentre en question, que tu vas grandir dans le Seigneur, ça va là dans le même rapport que tu grandis dans le Seigneur par ses révélations, par ses enseignements, par aussi son action qui va agir en toi. Puis là, tu vas vivre de plus en plus comme qu'il veut, agréable à Dieu, puis il va continuer à t'en donner d'autres, puis tu vas continuer à grandir dans le Seigneur. C'est ça qui est le plan de Dieu pour notre croissance, pour qu'on arrive à devenir comme Jésus. Une foi démontrée par nos œuvres, dans le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui doit primer. Les attentes du Seigneur sont très élevées. Dieu n'a pas établi, fais juste m'accepter puis c'est suffisant. Il y a plein de versets qui vont beaucoup plus loin. Les attentes de Dieu sont beaucoup plus élevées. C'est comme si la barre de celui qui fait des sauts en hauteur, mais la barre est haute à atteindre. Il veut voir chacun de ses rachetés marchant dans une droiture supérieure aux gens religieux de l'époque de Jésus. C'est ce qu'on voit dans le prochain passage. Jésus a dit, aux Juifs qui étaient là, qui les gens étaient supposés de marcher selon la parole de Dieu. Jésus a dit, « Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements, puis qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ça, là, c'est un verset, on dit « Amen », mais on dit « Ouch » en même temps. Parce que là, on voit vraiment la barre, à quelle hauteur que Jésus l'a mis. Il voyait les gens qui étaient autour, là, les pharisiens, qui se pensaient religieux, se pensaient mettre en pratique la parole de Dieu. Puis Jésus leur a reproché leur endurcissement, puis leur cœur qui est pas conforme. Le cœur est à loin d'obéir au Seigneur. C'était comme de l'apparence d'être religieux. Puis Jésus, lui, ce qu'il regarde, c'est « Tu les mets-tu en pratique, mes commandements, ou si tu les mets pas en pratique? » C'est ça qu'il regarde. Il l'a dit dans le premier verset, verset 19. On est dans Matthieu, chapitre 5, verset 19. Si tu supprimes les plus petits commandements, puis t'enseignes aux autres, on parle des plus petits, on parle pas des plus gros, là. On parle pas des plus grands. Les plus petits, les petites affaires de la parole de Dieu, les petits enseignements, attendre l'autre jour, faire un 2000 avec celui que t'en demandes de faire 1000, de pas résister aux méchants, de prier, puis de tous les petits points d'enseignement, là. Si t'es suprême, ben tu vas être appelé le plus petit dans le royaume. Si t'es aimé en pratique, puis t'enseignes à mettre en pratique, tu vas être appelé le plus grand dans le royaume. Puis c'est là qu'il dit, si ta justice, parce qu'il dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est une marche dans la justice. Si t'es dans le péché par-dessus la tête, tu marches pas dans la justice, tu marches dans le péché. C'est pas à cause que Jésus t'a pardonné, il y a 5 ans, qu'aujourd'hui, on doit rester dans le péché, loin de là, parce que si on marche selon la chair, on va mourir. Faut sortir du péché. Marcher dans la justice, c'est plus être dans le péché. C'est ça le but à atteindre. Puis si on n'arrive pas à vivre cette vie-là, loin du péché, sorti du péché, mais on n'est pas mieux que les pharisiens qui se faisaient condamner dans le temps de Jésus. On a à apprendre, frères et sœurs, à marcher dans la droiture, dans la justice, selon ce qui a été écrit, dans les mains d'un plus petit commandement. Amen. Notre amour et notre obéissance est démontrée par ses commandements, à suivre ses commandements. Plus que nous démontrons notre amour par notre obéissance, plus nous recevons des révélations de Dieu. C'est un passage qui est profond, qui est très bénissant, qui est très utile pour la croissance dans le Seigneur. Dans Jean 14, 21, Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Voyez-vous, si tu as les commandements de Dieu, tu les connais, puis tu les gardes, tu les mets en pratique, mais c'est celui qui m'aime. Jésus dit, « Si tu m'aimes vraiment, tu vas garder ma parole. » C'est ce qu'il est en train de dire aussi, dans la même chose dans ces mots-là. Tu vas être, tu as ses commandements, tu les gardes, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça veut dire que Dieu, il a un amour particulier pour ceux qui aiment sa parole, qui aiment ses commandements, même les plus petits commandements. On veut les mettre en pratique. On veut mettre en pratique ce que Jésus nous enseigne. Puis ça, là, c'est là qu'on démontre qu'on a de l'amour pour Dieu. Puis ça dit, si on continue le verset, ça dit, si on va être aimé de son Père, puis ça, Jésus va nous aimer. Il dit, je l'aimerai, puis je me ferai connaître à lui. Voyez-vous, ce passage-là est en train de nous dire que si tu aimes le Seigneur, en démontrant que tu l'aimes en pratiquant ses commandements, mais tu es en train d'aimer le Père, puis parce que tu gardes sa parole, mais le Père va t'aimer, Jésus va t'aimer, puis il va se faire connaître à toi. Il va te révéler sa parole, puis tu vas continuer à grandir encore davantage. Tu vas recevoir de plus en plus de ses révélations. C'est important d'avoir un cœur pour obéir au Seigneur, puis se dire, faut que j'obéisse au Seigneur, faut que je marche selon sa volonté, puis ça fait partie du plan de Dieu, puis de notre croissance dans le Seigneur. La Bible nous dit aussi que c'est pour cela que les apôtres insistaient dans leur enseignement. Les apôtres insistaient dans leur enseignement afin que nous progressions en marchant d'une manière digne de Dieu et de son royaume. Si on voit ça, que l'apôtre Paul dit ça aux Thessaloniciens, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. On était appelé à son royaume et à sa gloire. Mais là, il faut apprendre à marcher d'une manière digne de Dieu. Parce qu'on met la main à charrue, puis on regarde en arrière, on n'est pas propre au royaume. Ça veut dire marcher d'une manière digne de Dieu, faut obéir, faut marcher dans la volonté de Dieu. Faut démontrer notre foi par notre obéissance. Puis, c'est là qu'on voit dans ce passage-là que les apôtres, ils nous ont exhortés, ils nous ont consolés, ils nous ont conjurés de marcher d'une manière digne, parce que c'est important. Ça fait partie du chemin resserré qui mène à la vie. Sans cette marche-là, dans cette attitude-là, dans cette manière que je vous explique-là, on rentre pas. Même si on croit. On est un peu comme les démons qui savent que Dieu existe, mais ils obéissent pas. Dieu veut que ses enfants s'engagent sur le chemin de l'obéissance. Lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, nous laissons notre trace, puis ça, ça l'encourage les autres. C'est important qu'on donne un bon exemple, un exemple d'obéissance. On peut être dans une église de 20, 30, 50, 100, 200 personnes. Il y a du monde qui nous connaît. Quand on marche tout croche, les gens nous voient, puis on donne un mauvais exemple. Puis si on marche d'une manière sainte, juste et irréprochable, on se laisse transformer, puis on veut avancer, puis on veut mettre en pratique, les gens le remarquent, puis ça l'encourage les autres. L'apôtre Paul en a fait mention dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 7, comment les gens de Thessalonique donnaient le bon exemple. Il dit en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ces gens-là s'étaient engagés, puis ils suivaient le Seigneur, suivaient la parole de Dieu. Ils voulaient grandir, puis ils étaient devenus des exemples. Ça nous dit en continuant, « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine puis dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons même pas besoin d'en parler. » Voyez-vous, quand que t'es en train de vivre là, la présence de Dieu dans ta vie, puis ta vie est transformée, puis tu mets en pratique la parole, il y a un témoignage qui se crée, il y a des gens qui vont te voir aller, puis ça rend témoignage aux gens, puis le monde autour le voit, il voit comment est-ce que ton cœur est empressé à obéir, puis ça crée un empressement dans le cœur des gens, ça donne le bon exemple, on n'a même pas besoin de parler, puis le témoignage, il va avancer tout seul, parce que ça fait partie du plan de Dieu que ça se passe comme cela. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va l'assaisonner, il ne reste plus qu'à le jeter dehors, puis il va être foulé aux pieds par les hommes. On est le sel de la terre. Ou si t'es une lumière, puis t'es en dessous de la table, t'éclaires pas personne. Le sel doit avoir sa saveur, sinon tu vas être foulé aux pieds. Mais le contraire d'être foulé aux pieds, si le sel a sa saveur, tu vas porter du fruit, tu vas servir à quelque chose qui va être bon, puis tu vas amener la bénédiction où ce que tu vas passer. Tout le monde va s'en apercevoir, ton témoignage va se répandre, puis ça va être du fruit dans ta vie. Puis l'autre verset, au verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès qu'on a eu auprès de vous. » Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voyez-vous, une véritable conversion, c'est quelqu'un qui se convertit au Seigneur, il a abandonné son ancienne vie, il a abandonné la vie de péché, il a abandonné ce qui n'est pas de Dieu. Il n'en veut plus. Il veut suivre le Seigneur, veut marcher avec le Seigneur, il aime le Seigneur. T'abandonnes, puis tu veux servir le vrai Dieu. Quand t'as passé par là, ton cheminement, ta croissance, ça va se faire, parce que le Saint-Esprit va t'en donner encore plus. Tu vas grandir, puis tu vas être un témoignage partout ce que tu vas passer. Je continue en finissant avec un dernier verset. Dieu nous appelle encore. Il appelle encore tout le monde aujourd'hui. Dieu fait une œuvre à travers le monde entier. Il veut que les gens soient sauvés. Mais il fait un appel à l'obéissance de la foi. Dieu veut que les gens viennent à l'obéissance de la foi. Pas juste croire à la foi, mais à l'obéissance de la foi par l'entremise de ses ouvriers. Dieu envoie ses ouvriers, ils répandent la bonne nouvelle, puis Dieu s'attend à ce que les gens abandonnent leur vie de péché, puis se tourne vers le Dieu vivant pour s'engager à le suivre, puis à le servir, puis à marcher avec lui. Dans Romains au chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul nous dit, « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom, dans le nom de Yeshua, ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voyez-vous, les apôtres savaient c'est à quoi leur ministère. C'était pas juste d'amener les gens à croire, c'est de les amener à l'obéissance de la foi. Nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance, une foi démontrée par notre obéissance. Ça fait partie d'un des premiers fruits qui va être dans la vie de tous ceux qui sont nés de nouveau, de tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, à la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. Si on a perdu ce cœur-là à vouloir marcher avec le Seigneur, il est encore temps de nous repentir. On est encore aujourd'hui le moment du salut où ce qu'on peut se repentir puis demander pardon au Seigneur, puis demander au Seigneur de venir faire l'œuvre pour nous changer, pour nous transformer, puis nous amener à être comme Jésus. Faites cette prière avec moi. Père, merci pour ta parole qui est vraie. Merci de nous révéler ta pensée. Merci de nous montrer que tu nous appelles à l'obéissance de la foi. Seigneur, je te demande de changer nos cœurs, changer nos vies, enlever de nous tout ce qui n'est pas de toi, toutes les pensées vers le péché, vers les convoitises, vers les passions infâmes, tout ce qui est les œuvres mortes, tout ce qui n'est pas de toi. Change-nous, transforme-nous, délivre-nous, brise nos chaînes et nos liens dans le nom de Jésus. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, grave tes paroles dans notre cœur et qu'on marche par la foi dans une bonne volonté de te suivre et te servir jusqu'à la fin. Tu es le seul vrai Dieu, puis on veut marcher à l'exemple de Jésus dans une obéissance parfaite. Je te remercie de ce que tu vas faire au mieux de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu il a entrepris cette œuvre-là, puis il va la faire. Dieu nous aime, puis Dieu va nous conduire jusqu'à dans le bon chemin jusqu'à la fin. C'est tout ce que j'avais pour vous dire aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.